Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue, c'est le Énervé la suite avec un dossier brûlant ce soir, 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Des cérémonies vont se tenir à Kigali le 7 avril prochain. Emmanuel Macron a été officiellement invité. Il a déclaré la semaine dernière qu'il ne pourra pas s'y rendre. Est-ce qu'il se rendra au parc de Choisy dans le 13e arrondissement à Paris le 7 avril prochain pour la cérémonie officielle de commémoration qui se tiendra avec Barbara Hendricks ? L'histoire le dira. Sans surprise, la France reste mal à l'aise à l'évocation de cette page sombre de l'histoire africaine, car la question continue de se poser : quel rôle la France a joué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ? On compte entre 800 000 et 1 million de Rwandais, en majorité Tutsis, victimes d'un massacre orchestré, prémédité par les forces armées locales et les miliciens Hutus. Il y a eu des révélations suite aux enquêtes menées ces dernières années, mais pour quelles raisons les archives ne sont-elles pas déclassifiées ? Ou quand elles le sont, pourquoi ne sont-elles pas publiques ? Alors que sait-on réellement ? Pourquoi la France n'a pas reconnu officiellement ce génocide ? Pas mal de questions qu'on va poser ce soir avec Christophe Bourseiller à nos invités. Ils sont cinq. Charles Abonimana est militant rwandais des droits de l'homme. Il signe « Moi, le dernier Tutsi ». Il y a Hélène Dumas qui est commissaire d'exposition. L'exposition « Rwanda 1994, notre histoire » au mémorial de la Shoah à Paris. Ça commencera le 4 avril. Il y a le reporter de guerre Laurent Larcher qui publie « Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire ». Isabelle Wengstein, avocate, réalisatrice. Il y a aussi Guillaume Ancel, un ancien militaire qui a écrit « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français. Au Énervé la suite, la séance est ouverte.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Oui, la caméra est sur vous, Christophe Bourseiller.
Vous êtes sûr, Laurent ? Oui. Écoutez, Laurent, en tout cas, vous me plongez dans la perplexité, je dois le dire, notamment par votre maîtrise du dossier rwandais. On jurait que vous y avez vécu durant plusieurs années. Dans ce dossier, vous virevoltez, Laurent. Alors, avant France Inter, auriez-vous par hasard travaillé sur une radio rwandaise ? Non, je galèche, c'est trop facile. Le fait est que nous commémorons en 2019 le 25e anniversaire du génocide Tutsi au Rwanda. Or, sur cette question, les avis demeurent partagés. Que des Hutus et massacré des Tutsis au Rwanda en 1994, nul n'en doute, mais quel a été le rôle de la France ? Officiellement, la France, pays allié du Rwanda, est intervenue dans un cadre strictement humanitaire. Mais les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, se font la guerre ou rivalisent depuis des dizaines et des dizaines d'années. En 1994, une milice armée Tutsi, le FPR, menaçait justement le pouvoir du gouvernement Hutu. Dès lors, la France s'est trouvée prise dans une sorte de nasse diplomatique. Qui fallait est-il soutenir au Rwanda ? Les rebelles ou le gouvernement ? Notre pays a-t-il choisi le mauvais camp ? 25 ans après, pourquoi la vérité peine-t-elle à paraître ? Car si nul ne doute du génocide, c'est le rôle de la France qui pose donc question. Alors, Laurent Larcher, donc, dans Rwanda, il parle, vous donnez la parole aux principaux acteurs de l'époque. Alors, dans ce dossier, allons-y directement, l'État français est-il coupable et de quoi ?
Il faut dire que la première question est énorme.
Bah oui,
Laurent Larcher.
Non, c'est, vous savez que c'est tellement grave, on parle d'un génocide. Ouais. C'est-à-dire la chose la plus épouvantable et l'accusation la plus grave qui puisse reposer et sur un homme, et sur une communauté, et sur un pays. Il n'y a pas plus grave. Alors, répondre à une question comme celle-ci mériterait 3 ou 4 heures d'émission. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des hommes qui ont agi ou qui n'ont pas agi, qui ont pris des responsabilités ou qui ne les ont pas prises, et qui, comment dire, et qu'ils se sont inscrits dans cette épouvantable tragédie. Alors oui, je pense qu'une partie de ces hommes n'ont pas vu ce à quoi ils participaient. Et je pense que oui, une partie de ces hommes, et c'est surtout des hommes d'ailleurs, des hommes politiques, mais aussi des militaires, mais aussi des spécialistes, n'ont pas mesuré dans quoi ils mettaient la France et la chose devant laquelle ils étaient. Alors s'il y a une culpabilité, elle est à mon sens là, dans cet aveuglement terrible, pas simplement en 1994, parce que l'histoire du génocide des Tutsis, enfin, perpétré contre les Tutsis au Rwanda ne commence pas en 1994. Il commence au moins en 1990, et je dirais même, il commence même à l'origine de ce pays.
Non, mais c'est vrai. Dès les années 90, c'est ce que d'ailleurs dit Hubert Védrine dans le livre quand vous l'interrogez.
Ouais. En réalité. C'est-à-dire que les premiers massacres, les premiers pogroms anti-Tutsis commis par le groupe qui veut s'emparer du pouvoir datent de 1959. Alors, je voudrais juste aussi une petite parenthèse. Ce ne sont pas tous les Tutsis, pardon, ce ne sont pas tous les Hutus qui sont responsables de cela. Et tous les Tutsis n'étaient pas non plus du côté du FPR. C'est-à-dire que là, il y a aussi une guerre civile. Mais il est vrai que, en tout cas, pour revenir à la France a reconnu assez tôt le génocide. Vous aviez dit dans votre...
Officiellement, hein.
Il me semble que dès le mois de mai, Alain Juppé parle de génocide. Mai 1994. Et c'est là où c'est terrible, parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent très bien qu'on massacre des hommes parce qu'ils sont des hommes. Et pourtant, on va continuer, en tout cas une partie des Français de l'époque, vont continuer à rester aveugles à ce qui se passe devant eux. Et c'est toute la question, à mon sens, que j'essaye de poser dans le livre et que j'explore dans ce livre. Pourquoi cet aveuglement? Pourquoi on ne voit pas ce que l'on voit? Pourquoi cette incapacité à ne pas voir ce que c'est que lorsque dans un barrage, on arrête une femme et un enfant et qu'on les massacre à la machette, simplement parce qu'ils sont Tutsis, et que vous, vous êtes militaire français, vous avez une puissance de feu, vous êtes formé pour ça, vous vous inscrivez dans une histoire, une longue histoire, et pourtant vous allez dérouter votre regard et passer devant. Pourquoi les hommes politiques, qui dirigent notre pays depuis, au moins qui dirigent ce dossier depuis 1990, qui savent très bien que le régime au pouvoir prépare, commette des crimes contre l'humanité à ce moment-là, simplement parce que ces villages sont, enfin parce que ces gens sont des Tutsis, pourquoi refusent-ils de voir ce qu'ils voient? Pourquoi refusent-ils d'entendre ceux qui sont chargés de les renseigner, de leur dire voilà, chef, voilà, nous armons, nous préparons, nous encadrons des hommes qui tuent d'autres hommes simplement parce qu'ils sont Tutsis. Voilà. C'est la question que je pose dans ce livre. C'est ce que j'essaye d'explorer auprès de ceux qui ont bien voulu me répondre. Et à la fin de ce voyage, je reste devant toujours cette stupeur. Pourquoi on ne voit pas ce qu'on le voit?
Guillaume Ancel.
Je pense que la question que vous avez posée, elle est centrale. Est-ce que la France a joué un rôle dans le génocide des Tutsis? Ça n'est pas à moi d'en juger, mais moi j'ai participé à l'opération turquoise. Ce sont mes camarades qui s'étaient battus les années précédentes, l'opération turquoise. Parce que nous étions rentrés secrètement en guerre, hein, aux côtés des forces gouvernementales, contre le FPR, que nous assimilions aux Tutsis, comme le faisaient les idéologues extrémistes Hutus. J'ai participé à Turquoise, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'anciens compagnons d'armes ou de personnes qui étaient présentes pendant ces actions de la France. Ma conclusion, elle est extrêmement sévère. C'est que oui, ce que nous avons fait, cette manière dont nous avons préparé, protéger, armer et réarmer après le génocide les forces qui l'ont conduite, la manière dont nous avons soutenu encore aujourd'hui, parce qu'on entend encore nos décideurs politiques de l'époque oser défendre les organisateurs du génocide de 1994.
Vous pensez à Hubert Védrine?
Je pense à Hubert Védrine et à l'amiral Langsade, avec qui j'étais en débat la semaine dernière, qui nous explique encore aujourd'hui.
Il dit que vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'étiez pas au courant de la chaîne de commandement à l'époque. C'était son argument dans le livre de Laurent Larcher.
Il dit plein de choses, sauf que moi j'étais sur place et ce que je raconte dans mon témoignage, c'est ce que j'ai fait. À ma connaissance, c'est pas lui qui l'a fait. Par contre, c'est lui qui en a donné l'ordre. Donc il en assume au moins la responsabilité, sachant qu'en plus, c'est un des seuls militaires qui pouvait, à l'époque, se targuer d'aller voir le président de la République, François Mitterrand, et lui dire « Président, on va trop loin. Vous ne pouvez pas demander à l'armée française de livrer des armes à des génocidaires. » Et moi, je dis simplement dans mon témoignage que ce que nous avons fait aujourd'hui fait que la France peut être accusée de complicité de génocide. Et je suis très gêné quand je dis ça, parce que je n'ai pas envie d'être accusé de ça. Je pense que c'est une poignée de décideurs, dont François Mitterrand, Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, l'amiral Jacques Langsade, ancien chef d'état-major, qui ont pris des décisions à l'époque et qui tiennent encore des discours aujourd'hui qui font que, très clairement, notre responsabilité est engagée dessus parce que je me demande si, aujourd'hui encore, ils ont simplement arrêté de soutenir ces génocidaires.
À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de négationnisme dans cette posture?
Clairement. En tout cas de révisionnisme, je prends un exemple, l'assassinat du président Habyarimana. Il se trouve que je suis missilier, c'est mon origine, je travaillais sur l'expertise sur les missiles portables. Il a fallu attendre 2012, 18 ans après les faits, pour qu'une expertise balistique demandée par la justice française établisse formellement que les missiles avaient été tirés par trois caravans du camp militaire de Kanombé.
Et dans un camp Hutu.
C'est le camp où s'entraînaient les unités d'élite de l'armée gouvernementale. Ce sont ces unités qu'entraînaient d'ailleurs des Français qui étaient présents. C'est le camp qu'a dirigé le colonel Bago Sora, qui est un des cerveaux du génocide. Donc, depuis 2012, on sait de manière formelle que ce sont les extrémistes Hutus qui ont organisé l'assassinat de leur président. On s'en doutait, c'était pour s'emparer du pouvoir et conduire le génocide. Alors, pourquoi est-ce que l'amiral Langsad, comme Hubert Védrine, continue, 25 ans après les faits, à nous dire que c'est sans doute le FPR qui aurait tiré sur l'avion du président Habyarimana? Et attendez, on apprend en début d'année 2019 qu'ils ont été informés par la DGSE, qui est juste le service des renseignements extérieurs de la France, qu'ils ont été informés que ce sont bien les extrémistes Hutus qui ont organisé cet assassinat, mais eux, ils sont informés depuis 1994. Ça veut dire que depuis 25 ans, ils connaissent la réalité, et depuis 25 ans, ils sous-entendent que ce sont des Tutsis qui auraient provoqué le génocide des Tutsis. Je tire le fil. Ils sous-entendent, ils osent nous dire que le génocide des Tutsis est un mouvement de vengeance spontanée et incontrôlable d'une foule de sauvages. Alors que ça n'est pas la réalité. Il n'y a pas d'alternative à la réalité. La réalité, c'est que le génocide des Tutsis, il a été organisé, il a été financé à l'avance et il a été conduit par une organisation implacable que la France a soutenue jusqu'à la fin du génocide, voire après. Voilà la réalité.
On va revenir sur le dossier dans quelques instants avec nos autres invités. Juste une question, je voulais une précision. Laurent Larcher, tout à l'heure, je disais que la France n'avait jamais reconnu officiellement le génocide. Et je le maintiens. Ils disent connaître les massacres, mais ils n'ont jamais reconnu officiellement le génocide. Juppé, Sarkozy, d'autres hommes politiques connaissent les massacres, mais ils ne peuvent pas se prononcer au nom de la France. Alors, c'est pour ça que je disais ça en général.
Alors, j'avais mal compris, pardonnez-moi. Je ne sais pas si la France n'a jamais reconnu en tant que France le génocide, mais en tout cas, tous les responsables politiques et militaires de l'époque qualifient ce qui s'est passé en avril 1994 d'un génocide perpétré contre les Tutsis. Même si cette phrase que je viens de dire au Quai d'Orsay a été assez longue à être formulée, mais aujourd'hui, quand même,
d'accord,
tout le monde serait d'accord. Je ne connais aucun responsable politique et militaire normal, qui dirait autre chose de ce que je viens de dire.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter. Kaoku Katoi, Kaoku Kaniniya. Warapunweni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude. Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Le flow de Gaël Faye qui en 2013 chantait la beauté et le drame de son petit pays, le Rwanda.
Il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. Notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité.
Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien à voir avec le génocide.
De la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire.
Nous ne sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lorsque c'est l'horreur qui nous prend le visage.
Au Énervé la suite ce soir, on se rafraîchit la mémoire et pour en parler, cinq invités, le militant rwandais Charles Abonimana, Hélène Dumas, chercheuse au CNRS, elle va prendre des notes, le reporter de guerre Laurent Larcher, Guillaume Ancel, ancien militaire au Rwanda et Isabelle Bengstein, avocate et réalisatrice. Isabelle Bengstein, qu'est-ce qu'on peut attendre des commémorations du 7 avril? Il y en aura à Kigali, mais il y en aura aussi à Paris, au Parc de Choisy. Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de la France, de la parole qui va être donnée? Qu'est-ce que vous en attendez?
Là, moi j'attends que cette cérémonie de commémoration sensibilise la France entière, soit en empathie avec les victimes. J'attends aussi un message fort qui soit donné au président de la République pour l'ouverture des archives. C'est peut-être très naïf de ma part, mais je pense que c'est la seule chose à faire aujourd'hui. Il faut que la communauté nationale soit sensibilisée. C'est quand même le troisième génocide du XXe siècle. C'est un génocide dont Guillaume Ancel dit, je pense à juste titre, il écrit dans son remarquable ouvrage qu'il aurait pu être évité, qu'on aurait pu l'éviter. Je pense que c'est la responsabilité de nous, Français, de d'abord faire la lumière sur ce qui s'est passé. C'est avant tout rendre hommage aux victimes. Je pense que c'est aussi avoir un discours de vérité et faire apparaître la vérité. La vérité, elle est aussi dans ces archives que, visiblement,
une partie a été déclassifiée, mais pas rendue publique, c'est ça, hein?
Alors, si j'ai bien compris, mais je ne suis absolument pas un expert en la matière, mais j'ai compris que François Hollande avait annoncé la déclassification et que les archives, en fait, avaient été, entre guillemets, rendues ouvertes, mais enfin ouvertes, mais pas accessibles. Donc, je ne sais pas ce que veut dire la déclassification lorsque on n'a pas accès à ces archives.
Hélène Dumas.
Oui, c'est le processus d'ouverture des archives. Il ne dépend pas que d'une décision présidentielle, à moins que le président de la République ne décide d'une dérogation générale sur l'ensemble de ces archives. C'est une question complexe. Il y a non seulement les archives nationales, qui renferment donc les archives de la présidence de François Mitterrand. Sur ce point, eh bien, elles ont été déclassifiées. Mais déclassifier ne signifie pas communicabilité aux chercheurs. Et en l'occurrence, jusqu'en 2021, il y a une mandataire donc qui s'appelle Dominique Bertinotti sur les archives de François Mitterrand et qui doit autoriser, donner son blanc-seing aux demandes qui sont faites pour accéder à ces archives. En revanche, les archives du ministère des Affaires étrangères et de la Défense, elles ne dépendent pas des archives nationales. Et là encore, les processus de déclassification, les processus de communication sont deux processus très différents. Et si vous regardez un petit peu le code du patrimoine, c'est un maquis kafkaïen pour accéder à ces archives. Donc je ne sais pas comment on peut s'en sortir juridiquement sur ces archives. Je crois que néanmoins que beaucoup de choses sont connues. Un socle de faits est avéré sur lequel on peut esquisser des interprétations déjà à peu près certaines sur l'engagement sans faille de la France de l'époque auprès d'un gouvernement raciste qui commettait entre 1990 et 1994, avant même le génocide, un certain nombre de massacres. Ça, ce sont des choses qui sont connues, que vous trouvez même dans les revues militaires qui ont été publiées à l'époque. Évidemment, dans un monde idéal, ce serait formidable de pouvoir accéder aux archives pour avoir un récit historique exhaustif complet. Mais néanmoins, beaucoup de choses sont d'ores et déjà connues.
D'abord, il y a une question que je me pose, enfin, que je vous pose, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les motivations du gouvernement français pour, à tout le moins, laisser faire le massacre et même, selon ce que vous laissez entendre, être co-responsable d'un tel génocide. Je ne sais pas, Guillaume Ancel, est-ce que vous avez des éléments de réponse?
Et ensuite, juste pour corriger une chose, c'est que ça n'est pas le gouvernement français, c'est l'Élysée. À l'époque, c'est l'Élysée qui pilote intégralement et qui laisse le gouvernement à l'écart. Il faut écouter le témoignage de Michel Rocard, par exemple, devant la MIB, qui dit « mais on a été complètement exclus du débat sur le sujet ». Donc c'est le précaré de l'Élysée. Tout petit groupe de personnes qui, à mon avis, n'osent pas contredire le président et dont on perd totalement le contrôle. C'est-à-dire qu'aucun Français ne sait quelle a été la politique de la France. Je le disais tout à l'heure, on est entré secrètement en guerre au début des années 90, en l'absence de débat démocratique. Le deuxième point, c'est que l'Élysée a pris cette politique pour des raisons qu'on ignorera tant que nous n'aurons pas accès à la réalité de leurs décisions. Or, aujourd'hui, ils nous racontent une histoire qui est une fable. L'amiral Langsade qui nous explique qu'il ne s'est rien passé au Rwanda, circuler, il n'y a rien à voir, et qui ose nous dire que la commission spéciale de soi-disant historiens, dans laquelle il n'y aura pas d'historiens d'ailleurs, que va annoncer le président Macron, a déjà conclu qu'on ne trouvera rien dans les archives, il se moque de nous. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le déni de l'histoire, puisque Hélène l'a rappelé, on sait déjà beaucoup de choses, on a beaucoup de témoignages. Ce qui nous intéresserait, c'est d'arriver à trouver les raisons pour lesquelles l'Élysée a pris ces décisions. Je n'imagine pas deux secondes que quelqu'un d'assez fou à l'Élysée se soit dit « on va pouvoir participer à un génocide ». Ils ont sans doute voulu préserver un régime qui faisait partie de leur sphère d'influence, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont aveuglés au point de ne pas comprendre qu'on commettait l'irréparable ?
Laurent Larcher, vous avez des éléments de réponse, vous qui avez interviewé Hubert Védrine et Alain Juppé à la fin de ce livre.
Oui, et aussi l'amiral Langsade.
L'amiral Langsade aussi.
Donc, je dirais les acteurs clés de cette histoire. Écoutez, tout commence, je crois, en 1990, en octobre 1990, lorsque le président Habyarimana demande à François Mitterrand, il dit que voilà, que le FPR, donc cette rébellion, enfin ce qu'il appelle lui une rébellion étrangère ougandaise, tentant de conquérir le pouvoir au Rwanda, donc fait une percée au Rwanda, et donc appelle à l'aide la France. Ça se passe dans un dîner, l'amiral Langsade assiste à ce moment de bascule important pour notre pays, où vraiment, entre la poire et le fromage, coup de fil du Quai d'Orsay, devant tout le monde, François Mitterrand dit « on intervient, amiral, envoyé deux compagnies de parachutistes ». Et c'est à partir de ce moment-là, octobre 90, que la France militairement s'embarque dans cette histoire, officiellement en plus avec un mensonge, effectivement comme le dit Guillaume, c'est-à-dire que cette décision est quand même débattue et présentée en Conseil des ministres, mais la version officielle, si on en croit Michel Rocard qui raconte ça, quelques années plus tard, c'était pour exfiltrer, protéger les Européens. Donc sous couvert de protection des Européens, on envoie des légionnaires ou des parachutistes qui vont stopper avec les Aérois et des Belges la première percée importante du FPR. C'est l'opération Norrois. Et à la différence des Belges et des Aérois, les Français vont rester officiellement jusqu'en décembre 1993. Donc de 90 à 93, la France non seulement aide l'armée rwandaise à stopper les percées du FPR, mais encadre l'armée rwandaise, arme l'armée rwandaise. Sous sa responsabilité, l'armée rwandaise, qui était composée de 3 000 ou 4 500 hommes en 90, passe à 35 ou à 45 000 trois ans plus tard. Et on va même jusqu'à, je ne sais pas si vous imaginez, on va aller même jusqu'à diriger l'armée rwandaise en février 1993. C'est un colonel, le colonel Xavier Tauzin, qui va diriger de fait l'armée rwandaise contre une percée du FPR. Sans ce colonel, sans une centaine de légionnaires avec lequel il est parti au Rwanda, le FPR aurait conquis Kigali en février ou mars 1993.
Alors Charles Abonimana, vous êtes Tutsi, vous avez écrit dans ce livre incroyable, moi le dernier Tutsi, vous racontez votre odyssée, il faut bien le dire, avec quelque chose qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de désir de vengeance, et vous insistez sur le fait que ce dont vous avez été le témoin ou l'acteur dans votre jeunesse et dans votre enfance, c'est le fait que dans votre village, les Tutsis et les Hutus s'entendaient parfaitement bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette entente se brise pour vous?
C'est un génocide. C'est un génocide qui nous arrive. C'est un événement qu'on ne croyait pas, même je dirais. De mes yeux d'enfant, à 12 ans, ou même moins, je vois une communauté qui est ensemble, qui est une famille commune, mais avec la colonisation dont vous parlez. Vous avez parlé des événements de 59, 60, 72 et 13 comme ça, jusqu'à même à ces événements de 90 et la continuité. Maintenant, vos pays nous abandonnent. C'est la colonisation, c'est une politique occidentale, si je dirais, qui a un pouvoir d'arrêter un génocide et à partir du premier jour. Alors nous, chez nous au village, devant nos amis qui nous entouraient et qui nous sécurisaient, ils nous promettaient de sécurité, et ils l'ont fait, juste une semaine à plus après l'attentat de l'avion du président. Alors il a fallu un discours qui vient de l'administration centrale. Le président intérimaire, il arrive dans la région, au sud. Une préfecture est considérée comme rebelle aux actions génocidaires. Lui, il va prononcer un discours en disant « Si les Hutus de la région ne participent pas, ils vont tous être massacrés ou tués. » Il y avait un groupe de gens qui devraient se débarrasser de ces connards, comme il disait. Alors nous, chez nous, à Mayunzwe, il nous a fallu un dirigeant génocidaire, parmi les autres, entraîné, bien préparé, pour faire juste un génocide en marche, jusqu'à ce que je devienne le dernier Tutsi à tuer.
Et qu'est-ce que vous attendez donc des commémorations qui auront lieu, vous, qui auront lieu le 7 avril, de votre côté? Qu'est-ce que vous en attendez?
Ça fait 25 ans déjà, et mes collègues ici viennent de parler du rôle de la France, et aussi des Nations Unies, des États, des superpuissances du monde. 25 ans, nous, les Rwandais, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Au moins, nous avons fait un choix de vivre. Vous allez le trouver dans le livre, dont je parle de la mort, mais je parle aussi de la vie après. Alors, la commémoration, le 7, j'aimerais bien avoir des discours politiques, mais qui nous rassurent. Une vérité, une réalité des faits, ce qui s'est passé, pourquoi les dirigeants du monde se sont retirés. Pourquoi ils ont diminué le contingent des Nations Unies de 2700 à 270? Pourquoi ils ont voulu protéger des génocidaires lorsqu'ils nous traquaient partout? Vous voyez, Guillaume, lui, il dit qu'ils sont venus pour dans une mission. Mais quelle sorte de mission? Est-ce que c'était humanitaire ou bien c'était une protection de faire courir les gens, de stopper l'avancée du FPR pour que nous, nos vies soient libérées. Voilà, moi j'aimerais bien sûr en avoir une reconnaissance qui est correcte et intime, qui vient du cœur, pas de mots, pas de mots. Parce que le plus jamais, j'aimerais bien sûr l'avoir à partir des faits de ce qui s'est passé.
Beating in there.
La voix du Kenya JS Ondara qui vit son rêve américain avec ce Saying Goodbye, une programmation bien le bonjour de Jean-Baptiste Audibert.
Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de RTLM. Les Tutsis furieux du Front Patriotique Rwandais veulent s'emparer du pouvoir et le prendre avec des armes. Les traîtres qui veulent nous exterminer, vous les connaissez mieux que moi. Désignez-les pour qu'on s'en occupe.
Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir.
Donc, où que vous soyez, venez combattre ici, à Kigali. C'est là que les Inkontani se lèchent les babines en disant « On aimerait bien voir la capitale du pays des Hutus, mais on va pas le leur donner. Nous nous y entretuerons. »
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Les archives de Radio Mille Collines ont énervé la suite à l'occasion du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. On pose la question assez brutale. La France est-elle coupable? Est-elle complice? Hélène Dumas, ces archives, elles seront dans l'exposition au Mémorial de la Shoah?
Les archives de la RTLM, non, car nous avons décidé de donner la parole aux
victimes.
Oui, aux enfants en particulier. Alors, pas du tout dans une perspective de pathos et de commisération. Nous avons décidé de présenter des sources nouvelles, c'est-à-dire de travailler sur les récits et les dessins d'enfants et d'essayer de saisir ce que disent les enfants du génocide comme un matériau historique digne d'être exploité par les historiens et non pas d'être seul objet de notre pitié, de notre commisération. Et par ailleurs, il y a tout un parcours sur l'histoire du racisme. Donc qui prend racine dans l'histoire coloniale, et je voudrais à ce titre revenir sur la présentation qui a été faite au tout début de cette émission, où tout et Tutsi contre toute évidence ethnographique ne sont pas des ethnies. Et c'est là toute la difficulté à comprendre l'histoire d'un racisme qui se fonde sur l'absence de différence objective. Il faut rappeler ici, pour nos auditeurs, que Hutu et Tutsi ils sont unis par une même langue. Tout le monde parle le Kinyarwanda et depuis très fort longtemps au Rwanda, avant l'arrivée des explorateurs, des colonisateurs, des missionnaires au début du XXe siècle, ils partagent les mêmes croyances religieuses et un même système politique et le même territoire. Il n'y a pas de quartier Hutu, de quartier Tutsi. Voilà, c'est une société qui vit en interrelation, dans des interrelations complexes. Et on a beaucoup de mal, depuis notre point de vue occidental, de manière générale sur l'Afrique, à comprendre le politique, la conflictualité, autrement que par des lunettes ethniques. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à cette politique catastrophique qui a été menée par notre pays.
Parce que le génocide concernait des Tutsis, mais des Hutus modérés aussi, qui se sont fait massacrer en même
temps. Alors, le génocide concerne les Tutsis, car c'est le projet politique, c'est l'extermination totale des Tutsis. Des Hutus sont morts pendant le génocide, c'est incontestable, des dizaines de milliers d'entre eux. Non pas pour ce qu'ils étaient ou supposaient être, mais pour ce qu'ils ont pensé ou pour ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire tenter de protéger les Tutsis ou de s'opposer au gouvernement. Ce sont deux logiques différentes.
En 2017, Isabelle Bankstein, la banque BNP Paribas a été visée par une plainte pénale pour complicité de génocide, complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par plusieurs parties civiles. L'association anticorruption Sherpa, le collectif pour le Rwanda et l'ONG de défense des victimes Ibuka France. Quelles conséquences ces accusations peuvent-elles avoir, d'après vous ?
Alors je ne sais pas où en est la plainte. Les conséquences, elles peuvent être extrêmement importantes, parce que si on arrive à faire condamner, mais c'est une accusation, aujourd'hui, les procès, ils sont complètement bloqués. C'est une accusation extrêmement grave de complicité de génocide. Donc les conséquences, elles peuvent être évidemment multiples.
Mais les dossiers sont bloqués.
Les dossiers, à ma connaissance, il n'y a pas eu de condamnation sur ce fondement qui a été prononcée à ce jour.
Guillaume ?
Je crois que là, on a le même obstacle que pour les archives. C'est-à-dire que quand on s'adresse à la BNP Paribas, alors pour l'instant, elle ne répond pas. Elle sera obligée face à la justice, puis elle nous annoncera que ses archives ont disparu, parce qu'elle n'était pas tenue de conserver les archives pendant 25 ans. On n'imagine pas deux secondes que la BNP Paribas a financé des achats d'armement pour des génocidaires pour se faire 100 000 dollars de commission. S'ils l'ont fait, c'est parce que les autres banques ont refusé. Les banques belges, les banques américaines ont refusé de financer des achats d'armes pendant l'embargo. Par contre, les Français Et donc la banque BNP Paribas, fort à parier que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle a reçu une directive très haut placée, on l'a vu à l'Élysée, pour leur demander une chose pareille, de transgresser les lois internationales pour financer un achat international. Et par ailleurs, on a documenté les achats, notamment aux Seychelles, les livraisons. Mais ce qui est beaucoup plus terrible, c'est qu'il y a 15 jours, Walfrid Oshi, qui était coordinateur international de la Croix-Rouge, a témoigné que sur la base de Goma, qui est la base opérationnelle de l'armée française pendant l'opération turquoise, ce sont des avions affrétés par la France qui débarquent des caisses d'armes et de munitions qui sont livrées aux génocidaires. Ça veut dire que même pendant l'opération turquoise, les livraisons d'armes aux génocidaires ont continué, alors que nos décideurs avaient été parfaitement informés par la DGSE que les gens qui commettaient le génocide étaient les forces gouvernementales. Donc on a continué à leur livrer des armes, et pour moi, c'est sans doute le fait le plus indéfendable, et sur lequel, pardon, il n'y a pas qu'un sujet historique et démocratique, il y a un sujet judiciaire, comme l'a rappelé Isabelle.
Et c'est probablement par ce biais-là qu'il y a des choses à faire encore aujourd'hui sur le plan judiciaire.
Eh bien, on verra ça dans les semaines à venir. Merci à tous. Le mot de la fin, vous l'avez repéré peut-être pour vous.
C'est la colonisation. C'est la faute de la colonisation. C'est ce que dit Charles Abonimana. Et je précise que son livre a été coécrit avec Daniel Lescornet, qui est avec nous dans le studio.
Merci à vous tous. Merci Isabelle Wengstein, Charles Abonimana. Moi, le dernier Tutsi, ça vient de paraître aux éditions Plon. Hélène Dumas, l'exposition Rwanda 1994, notre histoire. Ça commence le 4 avril au mémorial de la Shoah à Paris. Laurent Larcher, le livre Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire. C'est aux éditions du Seuil. Et enfin, Guillaume Ancel, Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français, est disponible aux éditions Les Belles Lettres.
Ouvre la porte du jardin que personne n'a poussé.
Ce pas à pas, ta boussole et ma voix.
Emprunte l'allée des rosiers que personne n'a emprunté.
Mes fleurs en hiver, tropicales éphémères.
Tout le long du bassin, je respire.
Tout se finit dans un jardin avec la soul digitale de Canine dans le NRV. Et bien voilà, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. C'est chaque jour, vous le savez, dès 18h, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis toujours en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. Et l'antenne, c'est 22h minuit. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Médevielle. La préparation, Virginie Rouzic, Benoît Lagane, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Gaëtan Lévy. À la technique ce soir, Patrick Henry et Gilles Gaillard. Demain, on se retrouve tous et toutes et on sera là avec lui.
5, 6, 7, 8. Et là, on glisse en Amazon. Clac.
Clac. Kamel Wally sera notre invité. Il chorégraphie au Paradis Latin à Paris. Double jeu pour Karel Prugnot, qui joue des jumelles dans Léonie et Noélie. Et dans Le Énervé, la suite, le grand remplacement. Un faux ou un tox ? Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.